Vous écoutez, on lit pour vous.
5 ans après la COVID, qu'en est-il de nos aînés? Un texte d'Isabelle Porteur paru le 7 mars 2025 dans Le Devoir. Après la pluie, le beau temps? En mars 2020, tout au début de la pandémie de COVID-19, des arcs-en-ciel symboles d'un avenir meilleur ont commencé à voir le jour à la grandeur du Québec. 5 ans plus tard, quel est le bilan? Retour sur cet épisode historique qui a marqué la mémoire collective et dont les conséquences sont encore bien présentes aujourd'hui. Des pansements sur le bobo, des progrès, mais pas de changement en profondeur. La pandémie n'a pas provoqué de véritable virage dans le soutien aux personnes âgées, et c'est bien dommage, plaident des experts. On n'a probablement pas assez tiré de leçons, déplore le docteur Kwok Dean Nguyen, gériatre et chercheur au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Si la prochaine pandémie nous arrive dans les 5 prochaines années, on n'oubliera pas la préparation des personnes âgées vulnérables comme on a pu l'oublier il y a 5 ans, concède-t-il, et la coordination sera plus efficace avec les CHSLD. On ne manquera pas d'équipements de protection. Mais là où le bas blesse, c'est que dans 10 ou 15 ans, je ne suis pas sûr, parce que ce n'est pas structurellement que les choses sont différentes. Les leçons sont retenues par les gens du terrain. Bref, il y a une mémoire terrain humaine, mais pas de mémoire institutionnelle. La COVID-19 était un signal d'alarme sur le vieillissement de la population et on ne l'a pas vraiment entendu, poursuit le médecin, qui avait piloté le comité d'experts du gouvernement pour mieux intervenir auprès des aînés au début de la pandémie en 2020. En témoignent les centaines de personnes âgées qui restent actuellement à l'hôpital, même si elles n'ont plus besoin de soins parce qu'elles sont en attente de services à domicile ou d'une place en CHSLD, souligne le docteur Nguyen. La cible ministérielle, c'est 8% de la population hospitalière. On ne l'a jamais atteinte et on est à 15%. Derrière l'expression « nos aînés », Alexandra Etier se spécialise dans l'étude des services à domicile québécois au Centre de recherche sur le vieillissement de l'Université de Sherbrooke. Elle a observé une prise de conscience des problèmes dans les centres d'hébergement et les résidences, notamment. « Mais ça n'a pas réellement changé », dit-elle. « J'ai plus l'impression qu'on a mis des pansements sur certains bobos. » Il manque encore beaucoup de personnel en soutien à domicile, déplore-t-elle, et on n'arrive pas à répondre à la demande malgré nos objectifs de maintenir les aînés à la maison le plus longtemps possible. On a encore de longues listes d'attente. De façon plus large, notre société a encore une vision infantilisante et réductrice du vieillissement, constate la chercheuse en gériatrie. Pendant la pandémie, j'ai étudié comment les médias parlaient des personnes aînées. Les politiciens et les gens qui prenaient la parole parlaient d'eux comme des personnes fragiles qu'il fallait protéger. On avait une attitude un peu paternaliste. Or, ce sont des personnes qui ont vécu énormément de choses dans leur vie et beaucoup ont des stratégies de résistance, des réseaux de soutien. C'est un autre signe d'âgisme, dit-elle. C'était comme s'il y avait une seule façon d'être une personne aînée, alors qu'on sait qu'il y a une diversité de façons d'être. Le vieillissement ne doit pas seulement être vu comme une période de perte, poursuit-elle. On met beaucoup l'accent sur les soins dans les politiques gouvernementales, mais il faut s'occuper du bien-être au sens plus large. On a besoin d'avoir des échanges avec les gens, des contacts entre les générations, une participation sociale. La peine qui subsiste. Âgée de 74 ans, l'ancienne ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, souligne d'entrée de jeu qu'elle est elle-même une aînée et que c'est un terme extrêmement fourre-tout. Pour ce qui est des aînés vulnérables, elle dit les avoir toujours considérés comme un peuple invisible. 5 ans après la pandémie qu'elle a vécue de l'intérieur du gouvernement, elle est encore habitée par une grande tristesse. Je pense à ça tous les jours. Au-delà de la mécanique, ce qui est le plus important, c'est la peine. La peine s'est installée chez moi, dit celle qui s'était justement lancée en politique pour défendre la cause des personnes âgées. J'aurais voulu tous les sauver, dit-elle. Collectivement, on n'était pas une société qui avait apprivoisé la mort et je crois qu'on est en train de le faire. Pas juste avec ça, mais aussi avec l'aide médicale à mourir. Pendant la pandémie, poursuit-elle, on a vu qu'on pouvait mourir dans l'indignité. La peine que cela a causée va rester, croit Mme Blais. Elle n'est pas finie et je ne pense pas qu'elle va finir. C'est comme Polytechnique, on en parle chaque année. Durant la première vague de la pandémie, le nombre de morts dans les CHSLD a dépassé la normale de 34 % par rapport à 15 % dans la population dans son ensemble, a rappelé la commissaire Joanne Castonguay dans son rapport sur les services rendus aux aînés pendant la pandémie. Elle a aussi fait état d'une attitude paternaliste de la part du gouvernement à leur endroit. Paradoxalement, il manquait une lentille aînée dans la prise de décision gouvernementale, a-t-elle noté. Ces derniers, plus que tout autre, ont donc pâti des ratés dans la gouvernance générale du système de santé et de services sociaux. Dans son bilan de 2024, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a noté que des progrès ont été effectués, la construction des maisons des aînés, l'amélioration de l'évaluation des résidences, tous types confondus, et l'ajout d'un pouvoir d'enquête dans les résidences privées, notamment. Le gouvernement constate toutefois qu'il reste fort à faire pour soutenir les proches aidants et améliorer la qualité des repas dans les CHSLD. Quant au virage massif vers les soins à domicile, il a été placé dans la colonne des réussites, même si le réseau ne répond pas à la demande. Un nouveau plan gouvernemental intitulé « La fierté de vieillir » a été lancé en mai 2024 par la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger. Plus ambitieux, il vise à accroître la qualité de vie au sens large pendant la vieillesse. C'était 5 ans après la COVID. Qu'en est-il de nos aînés? Un texte d'Isabelle Porter, paru le 7 mars 2025 dans Le Devoir.
Cinq questions incontournables et comment y répondre. Un texte de Maude Goyer, paru le 10 mars 2025 dans La Presse. Les processus d'embauche ont peut-être changé au cours de la dernière décennie, avec entre autres l'arrivée de l'intelligence artificielle. Mais l'étape de l'entrevue demeure une clé importante. Certaines questions sont immuables. 4 experts nous parlent des plus communes et des meilleures façons d'y répondre. Quelle est votre motivation à postuler pour ce poste? Fondamentale, cette question va inévitablement être posée en début d'entrevue. C'est le pourquoi. Idéalement, le candidat arrime ses forces aux exigences du poste. Comment on va contribuer à l'organisation, demande Sophie Audet, coach professionnel. Je pense qu'il vaut mieux répondre sincèrement, en engageant son cœur et sa tête. Un piège à éviter? Donner une réponse liée à ses aptitudes. C'est le temps de faire valoir son intérêt et sa motivation, dit Mathieu Guénette, conseiller d'orientation. Et il vaut mieux être spécifique. Ne répondez pas « j'ai envie de relever de nouveaux défis ». Quelles sont vos forces et vos défis ou points de développement défauts? Si vous êtes tenté de répondre que vous êtes trop perfectionniste ou trop investi en parlant de vos défauts, c'est une mauvaise idée, avance M. Guénette. Il ne faut pas penser que les recruteurs sont niaiseux. On connaît les trucs, laisse-t-il tomber. Le but ici est de montrer qu'on se connaît et qu'on est capable d'introspection. Cela va faire monter la crédibilité si on répond en donnant des exemples de situations, précise-t-il. Pour Benjamin Leclerc, associé chez Fauve, chasseur de tête, le candidat a intérêt à faire preuve d'humilité et d'aplomb. On veut voir s'ils sont capables d'être francs, de montrer qu'ils travaillent sur certains aspects, quelle est leur courbe d'apprentissage. Pouvez-vous nommer des réalisations et des difficultés dans votre travail? Cela peut sembler une question difficile car on peut avoir le réflexe d'être réticent à s'avancer sur des aspects négatifs liés à notre travail, commente Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées du Québec. En répondant honnêtement, sans en mettre trop, le candidat peut faire valoir sa capacité à poser un regard critique sur son parcours, son ouverture et sa capacité d'apprendre, dit-elle. On voit aussi la résilience du candidat, comment il se débrouille devant les obstacles de la vie, ajoute Sophie Audet. Pourquoi y a-t-il un vide dans votre curriculum vitae? Encore une fois, la franchise est de mise, croient les experts. Et puis, il y a une foule de raisons qui peuvent expliquer une période sans boulot. Ça peut être à cause d'un souci personnel, comme la maladie. Ça peut être en lien avec un voyage, avec des études ou encore pour prendre soin d'un proche, énumère M. Leclerc. Tout se justifie. L'important, note-t-il, c'est de montrer comment cette situation a fait grandir la personne. Madame Poirier est du même avis. Il arrive dans la vie que le travail ne soit pas une priorité. Il faut éviter de raconter toute l'histoire, de donner trop de détails, souligne-t-elle, et le recruteur ne va pas fouiller. Il va comprendre que c'est sensible. Est-ce que vous avez des questions? Le candidat est-il curieux? A-t-il effectué quelques recherches sur l'organisation avant l'entrevue? Ces deux questions intéressent bien des recruteurs, dit Benjamin Leclerc, chasseur de tête. Je trouve louche quelqu'un qui n'a aucune question, indique-t-il. Une question du genre « Quels sont les projets de l'entreprise pour les 3 prochaines années ?» montre un intérêt, une curiosité. Sa recommandation? Préparez-vous à poser des questions. Renseignez-vous sur l'organisation, sa progression, sa culture, ses valeurs, ses récents succès. 4 experts, 4 conseils. Ne parlez pas qu'avec votre tête. Ça prend une connexion et évitez les réponses vagues. Sophie Audet, coach professionnel. Prenez le temps de bien comprendre les exigences du poste et faites attention de braquer les projecteurs sur les éléments recherchés. Mettez-vous en valeur. Manon Poirier, directrice générale, Ordre des conseillers en ressources humaines agréées du Québec. Utilisez le modèle STAR pour répondre aux questions. S pour situation, T pour tâche, A pour action et R pour résultat. Ça permet de raconter une histoire, de capter l'attention. Mathieu Guénette, conseiller d'orientation. Quand le candidat arrive en entrevue, on sait déjà qu'il a le savoir-faire. On évalue beaucoup plus le savoir-être à cette étape. L'authenticité et l'humilité sont importantes. Benjamin Leclerc, associé chez Fauve, chasseur de tête. C'était 5 questions incontournables et comment y répondre, un texte de Maud Goyer, paru le 10 mars 2025 dans La Presse.
Chemsex entre euphorie et péril. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 28 février 2025 dans le magazine Fugue. Baiser sous influence, source infinie de plaisir ou puissant fond de problèmes. Ici, la réponse se trouvait entre les deux, dans un lot de nuances, comme l'explique Maxime Blanchette, professeur en travail social à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui s'intéresse à la consommation sexualisée. Qu'est-ce qui t'a poussé à développer une expertise sur les enjeux du chemsex? Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le milieu de la consommation sexualisée. En 2014, quand on faisait les tests pour la PrEP au CHUM, on entendait beaucoup les participants parler de consommation et de sexualité, mais le chemsex était encore une expression nouvelle. J'ai continué à travailler dans l'univers de la sexualité et des dépendances auprès des GBARSA, gays, bisexuels, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Puis, en commençant à travailler comme TS à l'actuel en 2017, je voyais presque exclusivement des hommes avec des pratiques de consommation sexualisée. Il y avait un trou de service pour eux. Comme j'ai toujours envie de faire changer les choses, j'ai pensé devenir professeur et chercheur dans ce domaine pour avoir un impact sur les politiques et la mise en place d'interventions. À quel point les communautés queer sont-elles sensibilisées au chemsex? On gagnerait à en parler davantage. Je parle de consommation sexualisée pour élargir à toutes les substances, à toutes les orientations sexuelles et à tous les genres, alors que le chemsex est ancré dans un contexte culturel précis. Si on ne passe pas par la population au sens large, on n'y arrivera pas. Ceci dit, il faut aussi faire de la sensibilisation ciblée. Ça fait partie de certaines normes culturelles. Par exemple, chez les GBARSA, il y a plus de gens qui vont s'adonner à ces pratiques. J'entends souvent dire que tout le monde fait ça, mais personne n'en parle. À quel point est-ce fréquent? Comme c'est tabou, ce n'est pas tout le monde qui en discute entre amis. Aussi, ça dépend de ce qu'on entend par chemsex. Si on parle d'utilisation de méthamphétamine ou de GHB, on va avoir un groupe de personnes plus limité. Mais si on parle de relations sexuelles sous les effets de l'alcool, on a beaucoup plus de gens qui ont des pratiques de consommation sexualisée. C'est fréquent dans le milieu queer que l'alcool et la sexualité soient liés, surtout si on a l'intention de consommer pour avoir de la sexualité, consciemment ou non. Y a-t-il un degré de chemsex sans risque? Les risques sont principalement liés à la consommation. Si on boit de l'alcool, ce n'est pas problématique en soi. Tu peux prendre un verre le vendredi avec tes amis, mais ça peut devenir un enjeu si, après chaque journée de travail, tu dois prendre une bouteille de vin pour te sentir mieux. Ça devient ta seule stratégie d'adaptation. La consommation sexualisée peut être utilisée pour pimenter le sexe. Deux personnes peuvent prendre un verre ou un peu de GHB pour baiser, de manière ponctuelle. Ça peut devenir problématique si c'est sa seule façon d'avoir accès à la sexualité, ou si ça a des impacts sur le reste de sa vie. Si une personne baise pendant 48 heures la fin de semaine, qu'elle a de la difficulté à s'en remettre et qu'elle doit manquer le travail, il y a des conséquences qui vont au-delà du simple plaisir. Les adeptes de consommation sexualisée ont-ils souvent la conviction de rester en contrôle? Ça dépend à qui on parle et où elles se situent dans leur introspection. En dépendance, plusieurs personnes peuvent avoir un sentiment de contrôle. Quand elles sont en train de le perdre, elles vont aller voir un intervenant, une intervenante. D'autres seront inconscientes des conséquences. Quels peuvent être les impacts du chemsex sur les relations sexuelles? Dans le positif, ça augmente souvent la libido. Ça peut permettre de se sentir plus performant, de connecter avec l'autre personne, d'avoir accès à des relations sexuelles pour certaines personnes, à cause de l'image corporelle, par exemple, sans oublier l'effet de la consommation elle-même qui peut procurer du plaisir. Dans le négatif, en multipliant les partenaires, on augmente le risque de contracter des ITSS et le VIH. Si le chemsex est une pratique répétée, on peut développer un problème de consommation. Si on consulte pour arrêter ou changer ses comportements de consommation, ça peut devenir difficile de dissocier la sexualité et la consommation, ou carrément de ressentir du plaisir sexuel sans consommation. La libido peut diminuer et l'orgasme peut devenir plus difficile à atteindre ou moins satisfaisant. Voit-on un lien direct entre le sevrage de substances et une période d'abstinence sexuelle? Oui, pour certaines personnes, la façon d'arrêter le chemsex, c'est l'abstinence de tout, le sexe et la consommation pendant un temps. Ensuite, elles vont réintroduire la sexualité. C'est une façon d'apporter des changements à ces vies. D'autres personnes vont opter pour la réduction des méfaits. Elles vont changer de substance, décider qu'une consommation sur deux sera sous l'effet de consommation ou plusieurs autres stratégies pour diminuer. Ça devient un double défi. Elles arrêtent deux choses qu'elles aiment beaucoup en même temps. En plus, quand on arrête la consommation, on est souvent confronté à certaines émotions et pensées qu'on essayait de camoufler, comme une faible estime de son physique ou l'impression de ne pas être assez performant. C'est beaucoup de choses à mener de front. C'était « Chemsex entre euphorie et péril », une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 28 février 2025 dans le magazine Fugue.
Comment votre pharmacien peut-il accompagner votre famille? Un texte commandité, paru le 8 mars 2025 dans La Presse. Un ennui de santé? Une inquiétude? La pharmacie est souvent le premier arrêt pour obtenir un avis d'expert. Or, saviez-vous que les pharmaciens peuvent désormais en faire plus pour votre santé? Découvrez quelques-unes des situations du quotidien où votre pharmacien est en mesure de vous accompagner dans votre parcours santé. Grossesse et maternité. Après plusieurs années d'attente, Maude et son conjoint Nicolas attendent enfin leur deuxième enfant. La bonne nouvelle a vite été accompagnée de l'apparition de symptômes typiques du premier trimestre. Comme la trentenaire a reçu un diagnostic de diabète gestationnel, elle est suivie plus étroitement. Heureusement, son pharmacien de quartier n'est jamais bien loin pour répondre à ses questions. Non seulement les symptômes de grossesse peuvent être incommodants, mais en outre, plusieurs d'entre eux apparaissent souvent avant le premier rendez-vous de suivi avec un médecin ou une infirmière. Pour soulager les symptômes associés à la grossesse, le pharmacien peut mettre en place un traitement contre les nausées ou prescrire un médicament contre les brûlements d'estomac, explique Alexandre Soucy, pharmacien propriétaire. Lorsque la femme enceinte, ou qui souhaite le devenir, vit une situation particulière, comme des traitements de fertilité ou un diabète gestationnel, l'équipe en pharmacie lui procure un accompagnement personnalisé. Dans le cas d'un suivi de diabète de grossesse, il faut apprendre à suivre sa glycémie avec un glucomètre et à se faire des injections d'insuline, précise le professionnel de la santé. Tout au long de la grossesse, le pharmacien pourra suivre la future maman pour ajuster le dosage selon l'évolution de son état de santé. Les mots d'ordre, ce sont l'efficacité et la sécurité du traitement. Santé de la famille. Entre les petits virus qui circulent à l'école de Zach, 8 ans, les infestations de poux et les maladies infantiles courantes, veiller à la santé des petits n'est pas de tout repos. La pharmacie devient la destination de première ligne pour les parents, Maude et Nicolas, lorsque leur aîné semble couvrir une infection ou qu'un ennui de santé se présente. Gastro-entérite, poux, vers intestinaux, même si ces maux sont courants et généralement sans gravité, ils peuvent affecter le bien-être de votre famille. En tant que professionnel de la santé, le pharmacien devient alors un allié précieux. En cas de problème de santé mineur ou lorsqu'aucun diagnostic n'est requis, on peut prescrire des médicaments pour soulager ou traiter les symptômes. On donne aussi des conseils aux parents sur les mesures à prendre. dit Alexandre Soucy, qui répond souvent aux questions de ses patients par l'intermédiaire d'une application de messagerie. Le pharmacien peut aussi jouer un rôle en présence de problèmes de santé plus importants. Il pourrait, par exemple, prescrire un auto-injecteur d'épinéphrine ou prolonger une ordonnance échue à un jeune qui souffre d'allergies alimentaires. Autre exemple, dans le suivi du TDAH, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, le pharmacien peut apporter des ajustements au traitement médicamenteux, toujours pour s'assurer que celui-ci reste efficace et sécuritaire, illustre M. Soucy. Suivi de maladies chroniques. Nicolas agit comme proche aidant auprès de son père, François, qui souffre d'une maladie chronique. L'homme de 67 ans est récemment devenu patient orphelin depuis le départ à la retraite de son médecin traitant. Le père de famille peut consulter son pharmacien de proximité pour éviter que les traitements prescrits à son père soient interrompus. De l'hypertension au diabète, en passant par le cholestérol, la douleur chronique, l'hypothyroïdie et les migraines, de nombreux maux et maladies chroniques peuvent être suivis par les pharmaciens au Québec. Ces professionnels de la santé sont évidemment en mesure d'ajuster les traitements médicamenteux, mais aussi de prescrire des tests et analyses et d'offrir des consultations. Un accompagnement rassurant pour les personnes atteintes d'un problème de santé qui doit être suivi à long terme. Il y a aussi plusieurs situations où le pharmacien peut prolonger une ordonnance, que ce soit parce que le patient n'a pas de médecin de famille ou qu'il est en attente de rendez-vous avec lui. En pharmacie, on fait un bon triage, indique Alexandre Soucy. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour faire la prise en charge, mais qu'on sait aussi à quel moment le patient doit être dirigé vers un autre professionnel. C'était « Comment votre pharmacien peut-il accompagner votre famille? » Un texte commandité paru le 8 mars 2025 dans La Presse.